Bonjour, c'est donc la troisième émission d'Attaquoise. Je vous rappelle que cette émission est mensuelle, que les deux premières ont traité une de la fin du monde, fin du mois, même combat, et la seconde de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, nous allons parler des banques, mais avant tout, je voudrais aussi rappeler que Attaquoise est une association qui lutte et qui informe pour la transparence fiscale, notamment. Ça, c'était le point de départ, qui maintenant s'oriente aussi vers tout ce qui est action citoyenne et protection de la planète. Je suis toujours en présence de Thierry Patinet, le porte-parole et président d'Attaquoise, à qui je vais passer la parole, puisque nous avons eu quelques échos de nos émissions précédentes et certains auditeurs nous ont interpellés, et donc nous allons préciser certaines choses. À toi, Thierry.
Oui, ben donc bonjour à vous. Merci,
Didier.
Il faut se réveiller, il fait froid ce matin. Oui, alors, ce dont on peut être sûr, c'est qu'au moins, il y a une personne qui a réagi. Et on voulait commencer l'émission de ce matin par cette réaction. À la fois parce qu'elle introduit parfaitement le thème des banques aujourd'hui. Ça concerne la Banque Postale, même si vous verrez que ce n'est pas la pire de toutes les banques françaises. Mais c'est en lien avec le premier dossier qu'on avait fait il y a donc 2 mois sur la question de la transition énergétique et transition écologique, c'est-à-dire la question des énergies fossiles. Donc il y a un petit texte qui émane d'une rédaction, la revue Reporter. Je vous lis in extenso, c'est très court, comme ça ce sera très clair. Donc l'idée, c'est fini le financement des énergies fossiles. La Banque Postale va sortir du gaz, du pétrole et du charbon d'ici à 2030, a annoncé le groupe La Poste ce jeudi 14 octobre. Dans un communiqué, l'institution explique que la Banque Postale va réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 46% d'ici à 2030 par rapport au niveau actuel. Pour cela, la banque va revoir son fonctionnement au quotidien, les émissions de ses bâtiments ou des véhicules, sachant que son électricité est déjà d'origine renouvelable et le restera. Surtout, toutes les activités financières dans le secteur des énergies fossiles vont peu à peu cesser. La banque s'engage à ne plus financer, investir ou fournir de services aux acteurs des secteurs du pétrole et du gaz, y compris non conventionnels. Alors, ce qu'on appelle, petite parenthèse, le pétrole et gaz non conventionnels, c'est notamment les gaz de schiste. Toute la chaîne est visée. Les entreprises qui explorent les gisements, celles qui produisent et celles qui transportent les carburants, etc. etc. Bon, je ne vais pas développer plus longuement. Ce document sera certainement sur le site d'Attaquoise. Merci donc à la revue Reporter de nous l'avoir reporté, c'est le cas de le dire. Donc vous avez compris que par rapport à la première émission, il y avait bien une articulation entre la question de la maîtrise de la finance et donc le rôle des banques, ce que l'on va voir aujourd'hui, et la question de l'avenir du climat en lien avec la question des énergies fossiles. Donc voilà, ça nous semblait tout à fait d'actualité. C'est pour ça que je me suis permis d'introduire par ça. Merci Didier.
En effet Thierry, c'est une belle introduction à cette émission, puisque nous allons donc parler du système bancaire et des banques françaises. Nous espérons qu'à l'issue de cette émission, vous serez un peu mieux informés sur ce que sont nos banques, à quoi elles servent, est-ce qu'elles pourraient servir un peu mieux, un peu plus utilement, quelles sont leurs dérives, etc. Il est bien entendu que même si nous allons faire peut-être une critique assez acerbe du système bancaire, il n'est pas question de mettre en cause les salariés qui y travaillent dans ces banques, hein, bien sûr, qui font ce qu'ils peuvent et qui sont souvent d'ailleurs très à l'écoute de nos problèmes. Alors, voilà.
Didier, sur cet aspect, tout de suite, dans les propositions d'action, il nous semble absolument indispensable de travailler, et j'insiste sur le mot travailler, entre les usagers, les clients des banques, par rapport à ce qu'ils vivent, leurs problèmes, leurs revendications, des associations comme ATTAC, mais également les salariés et leurs représentants des personnels et leur représentation syndicale, de façon à ce qu'on construise ensemble ce que pourrait devenir un système bancaire réellement au service de la population et de l'économie réelle. Donc,
les uns sur les autres.
Et donc, là, ce qu'a dit Didier sur le fait que ce n'est pas contre les salariés, c'était pas une façon polie d'ouvrir cette séance sur les banques. C'est vraiment, on le pense.
Bien. Alors, première petite présentation, première partie sur une présentation rapide des banques françaises. Voilà. Notre but, c'est de vous informer. Ce n'est pas forcément non plus de vous dire qu'il faut aller dans telle ou telle banque ou quoi que ce soit. Hein, c'est de vous donner un panorama, une petite présentation. Alors, le système français se caractérise par trois principales dispositions qui sont à la fois son regroupement, puisque cinq groupes financiers français, bancaires, représentent 80% de toute l'activité financière bancaire en France. Donc ces cinq groupes sont par ordre d'activité.
On pourrait faire un jeu. On peut demander aux gens qui réagissent.
Oui, alors peut-être là, que nous ne sommes pas en interactivité, je crois, c'est RAVM, donc pour l'instant, c'est encore limité. Donc nous allons peut-être faire un petit jeu entre nous. Notre technicien, est-ce que tu connais la première banque française en termes de chiffre d'affaires ?
Et qui est, en même temps, c'est l'ordre du, on pourrait dire, presque de la plus pourrie à la moins pourrie.
Alors, pas trop insister non plus, pas trop jouer. C'est donc la BNP, Banque Nationale de Paris, qui a un chiffre d'affaires qui correspond à peu près au PIB de la France, c'est-à-dire aux environs de 2000 milliards par an, bien sûr. Hein, c'est pas, voilà. Ensuite vient le Crédit Agricole avec un peu moins de 1800 milliards.
1800 voilà. Milliards, voilà.
Ensuite la Société Générale, 1200. Le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec sa banque d'affaires Natixis. Et enfin, le crédit mutuel. Voilà. Donc, ces cinq-là, ils représentent finalement 80% de l'activité bancaire en France. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est un chiffre d'affaires très important. Hein. Et ce chiffre d'affaires ne prend en compte
que le bilan officiel.
Que le bilan officiel. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des tas de choses qui nous sont. Nous le savons. Certains dossiers, documents nous le prouvent, qu'il y a aussi des tas d'activités occultes et qui ne font pas partie de ce bilan.
Je peux préciser une chose, Didier ?
Oui.
Alors, vous ne le voyez pas, je le montre à ceux qui sont dans le studio. On s'est servi essentiellement d'un petit livre qui s'appelle « Le livre noir des banques » qui a été fait aux éditions « Les liens qui libèrent » en 2015 par Attac et l'association Basta. Et donc vraiment, ces références, on les mettra sur notre site parce que ça vous donne des sources sérieuses. Alors par rapport à ce que vient de dire Didier, le bilan réel, alors supposé, puisque par principe il est caché, de la BNP Paribas, donc Didier vous disait 2000 milliards, donc l'équivalent du PIB. Ça c'est le bilan officiel, le bilan bancaire annuel. Mais dans la réalité, les experts qui ont travaillé sur ce dossier estime que c'est 48 000 milliards, c'est-à-dire 24 fois le PIB de la France, avec toutes les activités occultes via ce dont on a parlé l'autre fois, l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, le shadow banking, la face cachée du système bancaire, etc. Comme l'avait présenté Didier dès la première émission, c'est avoir des ordres de grandeur. On ne peut pas retenir tous les chiffres. Mais quand on retient ça, ça veut dire qu'une telle banque a des capacités d'intervention, d'action, de nuisance éventuellement, ou pas.
De chantage,
24 fois supérieure à l'État français. Donc quand on a ça dans un coin de la tête, après on réfléchit différemment sur les aspects bancaires. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé.
Alors effectivement, première cause de dangerosité, c'était cette concentration. La deuxième cause, c'est la taille de cette concentration, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, ça représente des sommes immenses. Et donc, des influences, des caractéristiques de chantage, des tas de choses qu'on verra par la suite. Et la troisième façon de voir les choses, c'est aussi de faire la séparation entre ce qui est banque de dépôt et banque d'activité financière sur les marchés. Et là aussi, c'est une caractéristique importante en France, c'est que notamment les BNP se caractérisent encore par une forte proportion de ces activités qui est orientée sur les marchés. Alors on verra pourquoi c'est pas que c'est pas bon en soi, c'est que parfois ce serait bien aussi que ce soit distingué de la banque de dépôt qui elle nous sert effectivement à avoir un prêt, à être et donc à faire tourner l'économie.
Didier, je peux encore ?
Oui.
On est dans l'interactivité. Donc page 40 de toujours mon petit bouquin, par rapport à ce que vient de dire Didier. Avant, il y avait une séparation très nette.
On reviendra peut-être à...
On y reviendra ?
Oui.
D'accord.
Parce que je pense que ça fait partie des mesures que Attac et d'autres préconisent. Et donc, on expliquera peut-être plus précisément.
Alors, donc, je n'explique pas, je donne simplement les repères historiques. Historiquement, les banques, c'était des banques de dépôt, plutôt, moins financières que maintenant. Il y a eu un premier décloisonnement, c'était en 66, loi de Bray, et la suppression définitive de la spécialisation des banques entre banques d'affaires et banques de dépôt. Les banques de dépôt, c'est ce qu'on revendique, c'est celles qui sont utiles, celles dont on sert au quotidien en tant que simple déposant. Ça a été supprimé en 1984. Autrement dit, maintenant, c'est des grandes entités qui mélangent toutes les formes de finances et donc tous les problèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Après, sur les solutions, effectivement, tu as raison, on les abordera ultérieurement. C'était simplement pour le situer dans le temps.
Alors justement, parce qu'on parle du temps, il me paraît important quand même de repréciser un petit peu ce qu'a été la crise de 2008 et ses conséquences. Un petit bref rappel, 2008, c'est la crise des subprimes. Les subprimes, ce sont des prêts hypothécaires qui avaient été donc accordés à bon nombre de citoyens américains et d'autres, et qui se sont révélés très nocifs. Donc ça a entraîné une crise financière importante sur toute la planète, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, et qui a eu des conséquences très graves. Alors, souvent, on entend dire que les banques françaises ont été plus ou moins épargnées, que ça a été bien, que voilà, globalement, ça n'a pas coûté grand-chose aux contribuables français. Globalement, c'est un peu faux. Hein, d'abord parce qu'on les a sauvés, mais sans contrepartie, c'est-à-dire qu'on a injecté de l'argent sans leur demander ce qu'ils en faisaient. Et puis surtout, globalement, ça nous a quand même coûté 30 milliards. Donc c'est pas rien, ces 30 milliards, on les retrouve dans la dette publique. Même si maintenant, en 2021, on a l'impression que ces 30 milliards, c'est plus grand-chose. Mmh. Ça ne fait que quand même, à l'époque, ça nous a fait passer de 60% d'endettement de dette publique du PIB à 93%. Donc c'était pas négligeable quand même. Voilà, donc ça c'était un petit point.
Et on en profite pour dire que la prochaine émission sera certainement justement
sur la
question de la dette publique, des dettes en général et de la dette publique.
Alors, sans parler des coûts sociaux hein, qu'a entraîné cette crise, hein, le chômage, la précarité, les politiques d'austérité, etc. On se rappelle de ce qui s'est passé en Grèce, en Irlande, en Espagne, en Portugal. Donc tout ça, c'est quand même des coûts qui ne sont pas forcément liés directement au système bancaire, enfin, qui n'ont pas de conséquences financières tout de suite, mais qui ont un coût social. Voilà. Alors, depuis cette crise de 2008, on entend souvent dire que oui, mais maintenant, on va faire des stress crash ou des crash tests, voilà, pour savoir que voilà, en cas de difficulté, quelles sont les banques qui pourraient réagir, etc. Bon, c'est tout ça, c'est un petit peu bidon. Hein, je suis pas un spécialiste du système bancaire, mais en même temps, je sais lire certains témoignages et certains experts qui parlent de ça, qui disent que c'est un petit peu bidon et que même s'il y a eu des choses effectivement qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et puis surtout, n'importe comment, les banques sont tellement grosses et du fait qu'elles regroupent aussi à la fois les marchés financiers et les banques de dépôt, elles sont tellement grandes, tellement grosses qu'on ne peut pas se passer d'elles. Et l'État se sent un peu obligé de les sauver. Et donc, quelque part, même si elles font des grosses conneries, bah, tant pis, on refloue et puis c'est reparti. Quoi. En gros, c'est ça.
C'est la fameuse expression « too big, too fail ».
Voilà, en anglais, s'il vous plaît.
Et donc, trop grosse pour s'écouler.
Oui, voilà. Alors, une banque, ça sert à quoi ? Normalement, leur rôle, c'est de mettre un peu d'huile dans les rouages de l'économie, de participer à l'innovation, à l'investissement, hein, de prêter aux ménages, de prêter dans l'immobilier, etc. Bon, on s'aperçoit que les banques françaises, là-dedans, ça représente 25% à peu près de leur part d'activité. Hein, et que, ben, manifestement, les 75%, c'est autre chose, c'est quoi ? Ben, c'est de la spéculation. c'est sur les marchés financiers. Ça veut dire que je t'achète, je te vends, je te rachète, je te revends. Et tout ça, ça fait que ça fait des flux financiers, mais qui globalement ne rapportent rien du tout, si ce n'est d'augmenter les dividendes et de faire monter la bourse. C'est tout. Donc il n'y a pas vraiment d'impact d'économie sur l'économie réelle. Donc à part, je vous dis, les 25% qui sont à, effectivement sur l'économie.
Didier, tu as employé le mot immobilier. Je pense que le vrai mot, c'était entreprise. C'est l'objectif, c'est pas de prêter à l'immobilier, c'est plutôt de prêter.
Pour l'immobilier.
Mais c'est de prêter à l'ensemble des entreprises par rapport à leurs besoins de financement, leurs besoins de trésorerie, pour qu'elles puissent investir dans différentes choses, oui. ainsi qu'aux particuliers.
Et, voilà, mais l'immobilier, c'était pour les particuliers.
Pour
acheter votre maison, quoi, en gros, c'est ça. Quoi.
Enfin, pour des achats. Pour des achats, quels qu'ils soient. Voilà. Et donc, ce sera cette question de l'utilisation de l'argent pour faire une vraie activité sociale, pour répondre aux besoins écologiques et autres, réorienter la finance. Quand on donne ce slogan, voilà ce que vient de dire Didier, c'est on pourrait avoir plus prise si les banques jouaient ce rôle de manière beaucoup plus active et moins sur la spéculation. Et sans développer sur l'aspect spéculation, ça produit ce que l'on vit depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bulles spéculatives, qui à un moment donné éclatent et qui provoquent des catastrophes économiques et des catastrophes sociales. Donc cette régulation, c'est indispensable.
Elle a les dents longues, ma banquière, en plus de ses excédentaires. Elle ne m'accorde vraiment aucun crédit, elle ne prête pas attention à mon débit. J'imagine qu'elle recèle des tas de trésors cachés, en attendant je suis fauché. Elle a les dents longues, ma banquière, j'aimerais la voir à découvert. Bien installée devant sa croissance du matin, occupée à me prodiguer ses abus de bien, envisageant la reproduction des espèces, mais c'est pas moi qui l'intéresse. Elle a les dents longues, ma banquière, je l'ai vue avec des œillères. Je la croise souvent quand elle part aux commissions, je sais qu'elle revient toujours chargée de provisions. Il paraît que l'argent sale, c'est pas cool, ouais. Eh bien, elle est cool. Elle a les dents longues, ma banquière. Lorsqu'elle me parle, elle est vulgaire. À chaque fin de mois, on lit du tête à sec. Elle se sent victorieuse et m'interdit l'échec. Les sourires pas francs et dans les règles de l'art. Elle me dit faut virer dardard. Et moi, je vire.
Alors, c'était un clip de Ma Banquière du groupe Swing Q, apparemment. Voilà, je l'ai trouvé sur YouTube, hein, je vais vous le cacher. Voilà, bon, un petit intermède musical. Alors, nous reprenons nos discussions sur les banques et le système bancaire français. Je vous rappelle que nous sommes sur RVM 93.7 Radio Valois-Mulsien et que nous faisons l'émission DataQuase, l'émission mensuelle. Voilà, donc nous continuons sur le système bancaire. Alors, malheureusement, nous n'avons pas que des belles choses à vous dire. Hein. Nous allons maintenant aborder le rôle des banques et du système bancaire dans l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Bon, malheureusement, là, il y a. On sait que les banques sont un intermédiaire et sont elles-mêmes un grand maillon, un maillon important pour l'évasion fiscale. Ça a été prouvé hein, par plusieurs. Alors, quelques chiffres tout simplement pour ne pas trop alourdir, mais qui sont convaincants. Quoi. Oxfam, hein, qui est un organisme de.
C'est une ONG qui lutte sur les mêmes choses que nous.
Sur l'évasion fiscale. Ouais. Par exemple, a découvert que aux îles Caïmans, la BNP, qui n'a aucun employé, a un bénéfice plus grand que son chiffre d'affaires. Bon, voilà, sans activité, apparemment, ça ne les gêne pas d'avoir un bénéfice plus grand que leur chiffre d'affaires. Bon, il n'y a pas que, hein. La Société Générale, avec 4% des employés dans un pays, fait 20% de son chiffre d'affaires, de son activité. Il y a des pays, notamment, mais même des pays européens, où manifestement, le taux de la productivité des employés est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'avec deux employés, ils arrivent à faire un chiffre d'affaires que dans d'autres pays, ils feraient avec 200 ou 300 employés. Quoi.
Ah bah,
bravo à ces employés. Je veux dire que
dans l'Europe, il y a l'île de Man, qui est une île entre l'Irlande et l'Angleterre. L'Irlande, le Luxembourg, bien évidemment. Alors, les Pays-Bas. Alors, je ne parle pas de la Suisse, puisqu'elle ne fait pas partie de la communauté européenne, mais qui sont des paradis fiscaux.
Oui, tout à fait. Alors, les paradis fiscaux, on en a parlé déjà la dernière fois, mais bon, voilà, c'était par rapport aux banques. Hein. Alors, bien sûr, cette évasion fiscale, ben, elle a un coût. Hein. C'est-à-dire que, ben, finalement, il manque les impôts que ne payent pas ces banques et les sociétés, ben, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Il manque, en gros, on estime, hein, à peu près à 60 milliards d'euros uniquement pour les banques, hein, responsables de cette évasion fiscale sur le budget de la France. Et c'est pour ça qu'après, qu'on vous dit qu'il faut qu'il y ait moins de services publics, que les fonctionnaires sont trop nombreux, qu'il y a pas, que voilà, et donc qu'il faut raboter les retraites, etc. Voilà.
Et sur
donc ça a quand même, c'est pas simplement l'évasion fiscale pour faire coucou, hein, c'est aussi, ça a des conséquences.
Donc il y a le principe de l'évasion fiscale, mais il y a également le principe même de la fiscalité. C'est-à-dire que c'est, alors je sais pas si tu comptais en parler.
Non, juste un chiffre. Hein. Voilà. Normalement, comme toute entreprise, il y a un impôt de production, hein, c'est-à-dire que il y a
l'impôt
sur les
sociétés,
bénéfices sur les sociétés. Mais on s'aperçoit que, notamment grâce à toutes les systèmes d'optimisation, etc., globalement, et là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même la Banque mondiale, hein, qui le dit, que le taux réel d'imposition des banques serait de 8,7%. Voilà.
Alors
c'est publié dans l'Express en 2015.
Donc alors que l'ensemble des entreprises en France, c'est un taux de 33%, je crois.
En 2015, c'était 33%.
Voilà.
Bon, maintenant,
il
ça
a
va
été
être
un peu diminué.
25, ouais. Mais voilà. Donc voilà, un autre point qui là peut-être va vous toucher plus personnellement en tant que
client des banques,
ce sont les frais bancaires. Alors il faut savoir que les pauvres rapportent beaucoup à la banque, hein, faut pas se leurrer. La banque ne vit pas qu'avec les riches, elle vit aussi beaucoup avec les pauvres. Et notamment, encore une fois, la BNP, décidément. Sur 9 milliards de profits déclarés, 4 milliards viennent de la banque de dépôt. Donc ça veut dire que ce sont tout ce qu'ils peuvent... Alors, bien sûr, une banque, quand elle prête avec un taux d'intérêt, il faut aussi qu'elle vive avec ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est lié aux frais bancaires. Alors les frais bancaires, sans rentrer dans les détails, mais l'UFC Que Choisir avait estimé que ça touchait 8 millions de personnes. Et ça ponctionnait 7 milliards d'euros à ces 8 millions de personnes. Donc malheureusement, 8 millions de personnes, bah, je suppose qu'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui ont été concernés. Et plus ou moins, on y est tous à un moment ou un autre. Hein. Notamment sur le découvert bancaire autorisé. Bon, c'est pas un droit d'être à découvert, mais ça veut dire que on vous autorise à être découvert, mais par contre, si vous dépassez ce découvert, ben vous avez des agios. Mais même d'ailleurs, quand vous êtes dans le principe du découvert, je pense qu'il y a des agios aussi. Donc les agios, ben, c'est des frais, hein, c'est des intérêts bancaires qui sont ponctionnés. Vous avez tout ce qui est aussi frais liés aux commissions d'intervention et au rejet de chèque, puisque à partir du moment où vous avez des problèmes de paiement, etc., eh ben, ils vous ponctionnent des frais. Alors ces frais, bien sûr, quand on n'avait qu'un ou deux par an, ça va, c'est supportable. Mais quand j'en avais beaucoup, eh ben, ça devient très très cher. Alors, il y a eu des petites choses qui ont été mises en place, hein, pour éviter de charger un peu trop la mule.
De fragiliser encore plus.
De fragiliser encore plus les clients un peu dans la difficulté. Mais enfin, ça va pas loin. Et puis, sans parler des crédits revolving, alors c'est ces fameux crédits qu'on peut vous proposer un peu dans tous les magasins à travers des filiales des banques qu'on a citées précédemment. Hein. Ce n'est pas de nouvelles banques, hein, c'est souvent les mêmes. Hein. et qui se cachent derrière leur filiale et qui vous proposent des crédits, bien sûr, sans aucun justificatif de montant, de salaire ou quoi que ce soit, à des taux complètement de l'ordre de 15%, alors que le taux nominal est de 2 ou 3. Quoi. Voilà.
Didier, sur cet aspect, parce que je pense que par rapport aux auditeurs, le fait que, de savoir que la banque, elle aide à 100 milliards ou 200 milliards d'évasion fiscale, les chiffres n'ont plus aucune réalité pour le quidam moyen que nous sommes. Par contre, par rapport aux difficultés personnelles qu'on a, c'est quelque chose qui peut sensibiliser énormément. Par rapport aux frais bancaires et la notion de client fragile, ce que tu disais, il n'y a que 500 000 personnes sur les plus de 3 millions de personnes qui sont éligibles à ce dispositif. C'est des mécanismes pour aider et que la banque doit vous proposer automatiquement, qui ne sont pas proposés, qui ne sont pas mis en œuvre. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui pourraient aider dès l'instant où vous avez connaissance de ce dispositif, vous savez comment l'utiliser et ça vous permet d'intervenir auprès de votre banque. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, même si on ne vous dira pas de bêtises si on n'est pas sûr de ce que l'on dit, mais on vous renverra auprès d'organismes ou auprès d'autres associations qui, elles, sont chargées d'aider les usagers justement dans ces démarches. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vas-y Didier.
Ok, c'est vrai que c'est un côté, il y a un côté pratique aussi dans notre émission qu'on voudrait développer aussi. Hein. Bien, alors maintenant qu'on a dénoncé un peu le système, il faut peut-être aborder ce qu'on propose.
Hein. Il ne reste plus que 3 minutes, je crois.
Oui. Alors, nos propositions, la première proposition, ce serait de séparer les banques de crédit et les banques d'affaires. Hein, c'est revenir à une situation qu'on a connue précédemment et que les banques de dépôt servent uniquement à faire marcher l'économie, à prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin, et puis que les banques d'affaires s'occupent des marchés financiers. Alors pourquoi ça ? Tout simplement parce que ça éviterait d'avoir des monstres qui deviennent, comme on l'a dit tout à l'heure, too big to fail, hein, qui ont un pouvoir énorme. Et puis, surtout aussi, c'est qu'en cas de crise, que les banques de dépôt ne viennent pas renflouer ce qui a été mal fait dans les banques d'affaires. Mmh. Hein, ce qui s'est passé en 2008, globalement, c'est ce qui s'est passé un peu quand même.
Tout à fait.
Alors, il y a d'autres propositions un peu plus générales et puis peut-être un peu plus européennes aussi. C'est de constituer un pôle bancaire français et ou européen pour qu'on ait quelque chose...
Pôle bancaire public.
Public, bien sûr. Et puis aussi... Dans le même ordre d'idée, c'est que comme les banques et la monnaie, etc., sont devenues devraient être des services publics, au moins qu'elles soient contrôlées par des associations d'usagers, par des instances de contrôle, et tout ça, bien sûr, pour éviter que de faire n'importe quoi. Et on parlera aussi de la responsabilité des traders, des dirigeants, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on pense qu'il est possible d'avoir un autre système bancaire. Et d'ailleurs, cet autre système bancaire ou les autres banques, il y en a qui existent quand même. Et pour ne pas la citer, il y a la NEF. La NEF est une banque...
Nouvelle économie financière.
Voilà, qui ne travaille pas du tout sur les circuits financiers et qui ne fait que prêter l'argent que lui ont donné les épargnants. Voilà. C'est une banque qui joue le rôle d'intermédiaire entre ce qu'on lui dépose en épargne, puisqu'elle propose en prêt pour ceux qui en ont besoin.
Donc un modèle de banque tel ce qu'on le souhaitait.
Voilà. Donc la NEF, pour ne pas la citer, qui est certainement la banque française la plus éthique. Voilà, je crois qu'on en a fini pour cette émission.
Deux propositions très concrètes aussi, allant dans le même sens. C'est il faut savoir qu'il y a des organismes qui permettent de placer sa finance de manière solidaire. Sur Internet, vous tapez « Finansol » et vous verrez, ça vous permet d'agir à votre niveau et puis de participer aux campagnes d'attaque comme on l'avait fait il y a quelques années ou qu'on continue, qui s'appelle « Pas avec notre argent ». Voilà. Et par rapport à au timing de notre émission, simplement pour vous dire que le 11 décembre, le samedi 11 décembre, il y a l'Assemblée générale d'attaque à Clermont-de-Loise. Et l'après-midi, c'est une réunion publique ouverte en présence d'Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne porte-parole nationale d'Attaque France. Et vous êtes tous invités à venir y participer. Voilà. On vous remercie.
Merci Thierry et à une prochaine fois. Au revoir.